l'Orne, une pure idée de la Normandie. Nous sommes dans le pays d'Andenne, un pays de douces collines et de forêts profondes, de bocages et de pommiers. Bagnoles de l'Orne se fond parfaitement dans la nature environnante. Alors, il est loin le temps où les têtes couronnées d'Europe choisissaient le prétexte d'une cure pour organiser des fêtes éblouissantes. Bagnoles de l'Orne a néanmoins conservé tout son charme et sa mine pimpante. Il y a toujours dans le décor des bâtiments majestueux, autrefois hôtels, transformés en appartements, et des villas typiques aux toits pentus. Et puis, il y a le manoir d'Ulysse, ancien relais de chasse, transformé en hôtel. Les oiseaux réveillent les hôtes à l'heure où les biches traversent le parc. Franck Quinton est le chef de ce lieu magnifique. Chef étoilé depuis plus de 25 ans. Retour sur son parcours avec Wallis Glaise.
Ça commence assez jeune, à 16-17 ans. Je fais une école hôtelière, je fais un BP. Après, j'ai quand même eu toujours l'influence familiale. Mon oncle Jacques travaille avec Monsieur Robuchon. On parle de la restauration de gamme et tout ça. Et donc, et puis mon père est quand même charcutier traiteur, ainsi que mes deux grands-pères. Donc, je baigne dedans et puis on peut dire que c'est presque naturellement que je suis devenu cuisinier. Presque naturellement.
Le premier goût dont vous vous souvenez?
Oh, le premier, je sais pas, mais en fait, j'ai une multitude de goûts qui sont vraiment hyper imprégnés. C'est la cuisine de ma grand-mère. Alors, c'est vrai que c'est bateau, hein, beaucoup de chefs disent ça, mais je peux pas m'empêcher de, à chaque fois qu'on me pose cette question, de dire voilà, c'est la cuisine de ma grand-mère qui m'a construit, quoi. Voilà, et donc, par des odeurs, des goûts, des moments pour moi, j'attache beaucoup d'importance aux moments, la convivialité, en plus de bien manger.
Votre cuisine, vous la décrivez par cette authenticité, mais il y a aussi ce rapport à la nostalgie. Elle se manifeste comment, justement, cette nostalgie dans vos plats?
Tout de suite, on est en période de chasse, et donc forcément, Mon grand-père étant chasseur, ma grand-mère cuisinait très bien le gibier, n'en mangeait pas d'ailleurs. Mais le cuisinait tellement bien que aujourd'hui je vais faire un perdreau. À titre personnel, on va manger les bécasses, tout ce qui est. Et puis aussi, ça cadre bien toujours avec mon histoire de forêt et de nature. Ça fait 25 ans qu'on a une étoile Michelin au manoir. Ça fait 30 ans que j'y fais la cuisine. Avec toujours l'idée de faire mieux de jour en jour. Ça n'a pas changé. Et forcément, même si j'avais fait des grandes maisons à Paris, hein, j'avais appris mon métier avec des grands chefs. Quand je suis revenu, j'étais bien loin d'être au niveau que je peux être maintenant. C'est une perpétuelle recherche de bouger, de voir ce que mes collègues font, de me tenir au courant de ce qui se fait. Forcément, la cuisine que je faisais il y a 25 ans et celle d'aujourd'hui n'a plus rien à voir.
Bagnoles de l'Orne est littéralement enveloppée par la forêt d'Andenne. Une forêt qui est le poumon vert de la ville. Et cette forêt fut habité par les fées, les ermites, traversé par les brigands et les chevaliers. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à craindre. On peut la parcourir au long des chemins de randonnée et au détour d'une route ou d'un chemin, on tombe sur une croix de granit ou un pigeonnier trapu. Franck Quinton y part presque tous les jours pour ramasser un des symboles de sa cuisine, les champignons.
C'est que le champignon, c'est éphémère. Et un champignon, pour qu'il soit bon, il faut que ce soit instantané comme cuisine. Il faut que ce soit rapide, instantané, parce qu'en fait, le champignon va s'altérer très très vite. Si vous voulez, champignons dans un frigo, c'est une catastrophe.
Bien sûr.
Donc, si vous voulez que votre champignon il relate plus l'endroit où il a été trouvé, le type d'arbre, bien sûr qu'il faut le faire cuisiner le plus rapidement possible.
Vous travaillez les champignons, évidemment, en fonction des saisons. Est-ce que ça représente des difficultés, des problématiques?
Ouais, mais en fait, c'est ça que j'aime, si vous voulez. C'est l'incertitude et la contrainte de changer d'histoire tous les jours. Et si vous voulez, tout de suite, j'ai un plat qui est une tartine de champignons en retour de cueillette. Elle n'est jamais pareille, parce que ça va dépendre de ce que je vais avoir. Et puis, voilà, tout va être tout le temps différent, quoi. En fait, j'aime bien ça, c'est pas statique, c'est très vivant comme histoire. Ouais. Ouais.
Vous cuisinez le champignon aussi en dessert. Comment est venue cette idée ?
Bon, l'idée, j'en ai pas forcément la paternité, on va dire, mais comment l'idée du champignon en dessert, il y a des écrits très vieux où le champignon est traité tel quel. Je lis pas mal de vieux livres de cuisine. On peut pas dire que c'est moi qui ai inventé ça. Dans le cadre des week-ends où on organise des week-ends mycologiques un petit peu, et donc ma sœur, en rédigeant un peu le communiqué de presse ou autre, avait écrit les champignons du départ à la fin, quoi, de l'entrée au dessert. Et donc ça m'avait forcé un petit peu à travailler le sujet. Mais le sujet, je le travaille depuis 30 ans maintenant, donc ça commence à être pas mal.
Un champignon de prédilection ?
À chaque fois, je dis que c'est mon champignon préféré. Et que ce soit n'importe lequel, que vous voyez, ils ont tous un intérêt. Et puis toujours, voilà. Alors forcément, je suis toujours content d'avoir les premières girolles, les premières trompettes de la mort, les premiers cèpes et tout ça. Au bout d'un moment, ils finissent par me fatiguer parce que ils sont toujours pareils, avec des petites différences, bien sûr. Mais et donc, je suis content d'avoir une espèce. Là, je vois comment on commence à avoir un petit peu de matinée froide. Et on a un champignon qui s'appelle le pied bleu. Qui est un super champignon et qui pousse dès les premières petites gelées. Et c'est un champignon qui est hyper intéressant, qui est fruité, savoureux au possible. Tout n'est que champignons à la maison, hein, tout le temps. Et puis je fais des petites matinées cuisine. J'aime pas le mot cours de cuisine, quoi. Voilà, c'est vraiment montrer, justement, comme vous venez de dire, ma passion et comment je peux et comment j'aime cuisiner les champignons. Alors ça va également à comment je veux qu'on ramasse les champignons, comment on se comporte en forêt, comment... Voilà, aujourd'hui, on est autour d'une forêt de plus de 7000 hectares, hein, la forêt des Andennes, qui est une forêt fabuleuse. Hein, tout ça nécessite des précautions de ramasser des belles choses, de pas en ramasser trop, de ramasser que des beaux champignons, de les éplucher avant de les mettre dans le panier, et tout ça. Des choses auxquelles je tiens beaucoup.
De nos jours, avec les problématiques que l'on connaît, donc j'imagine que c'est quelque chose aussi qui vous touche dans votre démarche et dans votre cuisine.
Écoutez, je suis hyper content que ce soit devenu à la mode, qu'on parle d'éco-responsabilité, de circuits courts. Alors forcément, vous savez, que ce soit les produits forestiers ou le maraîchage, voire tous les petits élevages de volailles et tout ça, au manoir, on a toujours fonctionné comme ça.
Au-delà de votre amour pour les champignons, lorsque vous allez dans votre fameuse forêt, est-ce qu'il y a d'autres produits que parfois vous pouvez aussi être amené à travailler ?
Oui, parce qu'en fait, c'est jamais fini. Alors, bon, l'apprentissage du champignon et de la connaissance de la mycologie, il faudrait une vie n'y suffira pas. Hein, donc... Après, je me suis intéressé beaucoup aux plantes sauvages, aux plantes tout ce qui était végétal et aux arbres et tout ça. On a cuisiné le Douglas très tôt, on a fait des glaces, on a fait plutôt des sorbets, on a fait des... Aujourd'hui, ça, c'est un élément qui est toujours avec un de mes plats, ça change tout ça. On a fumé au bois de hêtre, on a... Voilà, si vous voulez, bon après, en fait, c'est quand même mon goût aussi, hein, parce que on a des arômes tertiaires aussi sur tout ce qui est le fumage et tout ça, la fumaison, qui marche plutôt pas mal avec le champignon et tout ça, ça se mélange très bien. J'ai toujours eu besoin d'avoir une tête derrière le produit, quel qu'il soit. Je vous parle de pigeons, ou je vous parle de... J'ai la tête de mon fournisseur qui apparaît, si vous voulez. Mes légumes, j'ai plusieurs maraîchers avec lesquels je travaille. Voilà, je vais dans leur jardin, je sais comment ils fonctionnent. Je sais, certains me disent, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme produit pour l'année prochaine? Je leur réponds, mais fais ce que tu sais bien faire et ça va être déjà formidable. C'est merveilleux, nos agriculteurs, ils nous font des beurres incroyables, des crèmes avec des typicités de terroir incroyables, fantastiques, vraiment. À côté du manoir, on a quand même le meilleur camembert du monde. Pas plus tard qu'hier, on a travaillé sur une poire. Donc il faut savoir que le manoir est dans le Domfronté. Le Domfronté, donc c'est la région du Domfronté, où on a la particularité de faire notre cidre avec de la poire, qui est fait principalement avec une petite poire et qui s'appelle le plan de blanc. J'ai pas pris la plan de blanc, j'ai pris la poire de cloche, qui est une poire un peu plus grosse, qui rentre dans la composition du poiré. C'est une poire qui ressemble plutôt à du coin, hein, qui ressemble à du coin, qui est très ferme. Donc cette poire, je l'ai cuite dans le poiré, je l'ai agrémentée avec un pesto de Douglas, si vous voulez, au lieu de faire un pesto basilic, au lieu de faire un pesto d'herbe, quel qu'il soit ou autre, on a continué à faire ce pesto avec le Douglas. Roulé dans le sucre avec un petit biscuit, voilà, on a fait une poire qui parle bien avec la région et puis la forêt.
Cette problématique, conserver cette authenticité et en même temps apporter de la modernité, comment faire simple dans l'excellence?
C'est ce qu'il y a de plus dur, la simplicité que je recherche, c'est toujours ça qui me pose le plus de problèmes. La justesse, parce que si vous voulez... Vous faites un plat quel qu'il soit, le fait de, par exemple, d'avoir... Je suis assez partisan, je fais beaucoup, hein, c'est même presque tous mes plats, j'ai pas la prétention de dire que tous mes plats sont comme ça, mais c'est trois goûts, c'est suffisant, mais seulement faut des violences de goût, quoi, voilà, des choses très, très marquées, très personnelles. Si vous voulez, j'ai envie de faire la cuisine qui est la mienne, mais qu'elle soit très percutante. Souvent, la cuisine normande a été traitée en disant que c'était une cuisine lourdingue, riche et tout ça. Elle était en effet comme ça, peut-être à une certaine époque, dans la sole à la normande, la sole liépoise, tout ça, c'est l'escalope de veau du pays d'Auge et tout ça, c'est... Bien sûr, c'est écrit. Seulement, faut la réaliser avec les goûts du jour. Si vous voulez, l'empreinte du goût, elle doit rester la même, avec une technique plus aérienne, quoi, plus légère, moins réduite, moins... Mais la trame de goût, pour moi, elle doit être inchangée.
L'Orne, c'est la Normandie dans son aspect le plus nature. Paradis pour les randonneurs, pour les mycologues, comme Franck Quinton, mais l'Orne... C'est aussi un lieu de villégiature à quelques encablures du littoral normand.
c'est un ensemble, hein, et c'est la Normandie, c'est là que la force de la Normandie est bien présente. Si vous voulez, ben on a toute la partie historique qui est quand même jamais qu'à 90 km du manoir de Nice. On a le Mont-Saint-Michel, c'est la même chose, toujours 90. Pour une clientèle étrangère, c'est peut-être un beau lieu de retrait, surtout l'été quand la côte est bien remplie. Ça peut être un endroit quiétude, voilà, une heure de route pour y aller, une heure de route pour revenir, et puis on se retrouve en plein dans la forêt, on change encore de paysage. Et tout à l'heure, on parlait des poiriers. Les poiriers qui font donc le poiré sont des arbres, je les trouve fantastiques, ces arbres, ils mettent 100 ans à naître, 100 ans à vivre et 100 ans à mourir. Bon, il y en a eu énormément de tombées pendant la tempête, mais il en reste quand même cependant beaucoup. Et ces arbres, au mois d'avril, quand ils sont en fleurs, je vous assure, avec des éclairages de printemps comme on peut avoir, avec des ciels très contrastés et tout ça, on a des couleurs fantastiques. On dirait des grands fantômes blancs dans le milieu des prairies. C'est magnifique.
Comment se porte le terroir dans l'Orne aujourd'hui ?
Oh bah, déjà, on est dans une zone quand même privilégié, on n'a pas d'industrie à côté, il n'y a pas trop de pollution, on est encore hyper nature, on a quand même une richesse incroyable. Après, le terroir de l'Orne, comment au niveau de la culture, comment il y a des choses qui poussent très bien chez nous, d'autres pas. Je ne suis pas très branché sur certaines expériences. Pour moi, depuis le temps qu'on fait du maraîchage, on sait ce qu'il faut faire dans certaines terres, et puis voilà, là sur ce, faut pas avoir peur de faire 50 km pour trouver un meilleur terroir que celui qu'on peut avoir.
Merci à Franck Quinton pour cette belle balade, merci à Wallis Glaise de l'avoir accompagné. Le manoir d'Ulysse vous attend à Bagnoles de l'Orne. L'Orne, une pure idée de la Normandie. Pour découvrir tous les secrets de l'Orne et retrouver toutes les informations pratiques, s'installer dans l'Orne.fr, c'est le site de référence de l'Orne.